Bonjour et bienvenue sur Europe 1 dans l'émission Les Athlètes de Dieu. Dans cette série d'entretiens, je rencontre des sportifs d'exception, des passionnés de sport, mais aussi des chercheurs de Dieu. Tous ont un point en commun, leur foi chrétienne qu'ils considèrent comme une force motrice dans leur quête de performance et leur équilibre mental. Pour la première fois, ils acceptent de partager sur Europe 1 cette dimension intime de leur vie. Aujourd'hui, je vous propose une interview exceptionnelle avec la plus grande cycliste de l'histoire, Jeannie Longo, une femme qui a défié le temps autant que ses adversaires. À 20 ans comme à 50, Jeannie Longo a imposé sa rigueur, son obsession du travail. Championne olympique, triple vainqueur du Tour de France, multiple championne de France, cette cycliste hors norme a marqué l'histoire du sport. Mais Jeannie Longo est aussi une athlète de Dieu.
Athlète de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1 avec le soutien d'Holly Games.
Bonjour Jeannie Longo.
Bonjour.
Merci infiniment de nous recevoir chez vous.
Moi, c'est avec plaisir. C'est plus pratique que pour moi d'aller à Paris.
Alors, c'était quand même assez extraordinaire. Il faut que je vous raconte la scène. C'est qu'on est arrivé à la gare de Grenoble et qui est venu nous chercher? C'est Jeannie Longo en personne.
Bah, oui. Enfin, ça n'a rien d'extraordinaire, mais bon.
Bah, moi, je trouve ça dingue parce que vous êtes une immense championne et vous êtes très humble. Et c'est ça qui m'a frappé. D'ailleurs, la première fois quand je vous ai eu au téléphone, c'est que j'avais l'impression d'avoir une personne normale, alors que c'est pas tout à fait normal ce que vous avez fait.
Alors, j'ai toujours eu l'impression d'être une femme normale. D'ailleurs, quand j'étais jeune, je pensais que, justement, le fait d'être champion du monde, mais je pensais même pas être championne olympique, d'ailleurs, mais être championne du monde, c'était réservé à des gens extraordinaires, des élites, enfin, des gens pas comme les autres, quoi. Donc, je pensais que c'était pas pour moi. Mais ceci dit, j'avais quand même l'ambition d'être bonne. Mais arriver à ce stade de champion, je pensais pas que ça pouvait être autorisé pour quelqu'un comme moi, normal, quoi. Voilà.
C'est-à-dire que jamais vous n'avez pensé réaliser avoir un palmarès aussi éloquent.
Non, au départ, non. Quand j'étais jeune, je pensais pas arriver à ce niveau-là. Mais mon ambition première était d'être une excellente skieuse. Donc j'avais des modèles de skieurs et de skieuses. Et je voulais être bonne, aller en Coupe du Monde, être en équipe de France. Donc j'ai pas dépassé le stade de l'équipe de France universitaire. Bon, j'ai quand même fait plusieurs championnats du monde universitaire. Voilà.
Fabuleux.
En ski alpin.
En ski alpin. Ouais. Donc quand on regarde les Jeux olympiques d'hiver, là, vous avez un œil très avisé sur ce qui se passe.
Oui, très affûté, parce que je pense que j'ai une capacité d'analyse. Ça a été mes qualités en fait pour arriver à haut niveau. Toujours analyser tout ce que je faisais, tout ce qui pouvait être meilleur pour être encore meilleur. Et oui, j'aime bien regarder toutes les épreuves, et notamment le ski alpin, bien sûr.
Ouais, on va en reparler parce que il s'est passé plein de choses. Alors, effectivement, là, on enregistre aujourd'hui ce magnifique entretien. Nous sommes mi-février, à une date qui est très importante. C'est aujourd'hui le mercredi décembre.
Oui. Oui, on a pris ce rendez-vous, on pensait pas que c'était ce jour-là, c'est après que j'ai réalisé que c'était le mercredi décembre.
Le début du carême.
Voilà.
Et vous avez le sourire, parce que c'est une période qui est quand même une période dans le monde d'assaise.
C'est ça. Alors, je reconnais que quand j'étais jeune, ma mère était très croyante, très pratiquante. Donc quand on était jeune, on arrêtait le chocolat, parce que ma mère était très gourmande. Et on a, oui,
et pour vous, c'était dur.
Carême, non, c'était pas vraiment dur parce que de toute façon, on était jeunes, donc il fallait qu'on mange équilibré et tout, donc il y avait quand même pas de privation. Ma mère a toujours veillé à ce qu'on soit, je dis nous parce que nous sommes trois sœurs, que nous soyons en bonne santé. Donc on a toujours une alimentation équilibrée, mais c'est vrai que peut-être qu'il y avait moins de gâteaux, moins de desserts, enfin on faisait un peu plus attention, oui, c'était carême, ouais.
40 jours.
Vendredi Saint, on faisait très attention.
Vendredi. Et ces 40 jours, on va rentrer évidemment dans cette émission Les Athlètes de Dieu avec plus de profondeur, mais c'est 40 jours importants pour vous, Jeannie Longo, avant Pâques?
Je reconnais que non, c'est pas. J'ai quand même. Je me suis éloignée quand même de la pratique, catholique, parce que ma mère c'était quand même le pilier de cette pratique, aller à la messe et tout ça. Je pratique plus. Mm. Par contre, j'ai gardé mes racines catholiques, mes racines chrétiennes et ma capacité de prière. Oui, ça, j'ai gardé ça.
Ouais. C'est magnifique et on va justement. Pouvoir peut-être plonger dans votre
Excusez-moi, et vous avez parlé d'humilité, et je pense que justement, la religion aide beaucoup à l'humilité.
C'est-à-dire que sans ça, sans ce décentrage de vous-même, sans ce regard vers au-dessus de vous, il y aurait peut-être un peu plus d'égoïsme d'une certaine façon.
Alors, c'est pas ça, mais il y a quand même justement, là, on parle de pratique, Il y a des pratiques de religion qui aident à l'humilité. C'est-à-dire, par exemple, la confession. Quand on était allé se confesser, je le fais plus, mais en intérieur, je le fais. C'est-à-dire que je dis qu'est-ce que j'ai fait, c'est pas bien ce que je viens de faire, ou voilà, mon attitude n'a pas été bonne. Donc ça aide quand même, ça pousse à l'humilité. J'entends régulièrement qu'il y a un retour de foi des jeunes, tant mieux. Parce que je pense que, comment dirais-je, quand il y a une perte de spiritualité, une perte de croyance, c'est terrible, quoi. Donc, je pense que quand on n'a plus que le matériel auquel se raccrocher, ça devient terrible, parce que quand le matériel n'est plus capable d'assurer justement le bien-être, quand les choses vont mal, on se dit, tiens, on a tout essayé au niveau matériel, donc il faut bien quand même avoir quelque chose derrière, et donc la spiritualité, c'est ce qui aide, c'est ce vers quoi on se tourne quand la médecine ne marche pas, l'économie ne nous apporte rien, enfin je veux dire, voilà, tout ce qui a été la technologie qui nous convient pas, donc tout ce qu'on a épuisé en matière, comment dirais-je, pratique, ne nous convient pas, et bien à ce moment-là, on est bien obligé d'avoir quand même quelque chose de spirituel pour survivre.
Et vous qui avez tout gagné, malgré tout, la spiritualité, on le sent à travers vos propos dès le début de cette émission, les athlètes de Dieu, c'est quelque chose d'important.
Disons que j'ai toujours été assez cérébrale, j'aime bien réfléchir, donc vous voyez, j'ai même pas de smartphone, donc je suis vraiment pas comment dirais-je, comme tout le monde, c'est-à-dire que j'ai aucune application, j'ai rien, j'ai pas de, je me raccroche à rien de ce qui est actuel, quoi.
Vous êtes un peu en dehors du temps. Mais dans le temps aussi.
Je suis dans le temps, oui, parce que je suis l'actualité et tout, je suis dans le temps, mais malgré tout, je suis très proche de la nature et je serais plutôt un peu Saint-François de Sales, si vous voulez. D'ailleurs, ma mère, qui aimait beaucoup les animaux, était très proche de Saint-François de Sales aussi. Ça aussi, c'est l'humilité, c'est-à-dire c'est l'observation de la nature, c'est d'être proche de tout notre environnement et dire qu'on fait partie de l'environnement et qu'on n'est pas au-dessus.
Saint-François de Sales, on est dans la région de Saint-François de Sales. Je crois qu'il a été évêque d'Annecy, et c'est saint patron des journalistes, alors ça me fait plaisir.
Ah, je savais pas. Ah bah alors, ils s'en inspirent pas beaucoup.
Donc on va demander au saint patron des journalistes de m'inspirer pour mes questions, et ça sera super.
Oui.
Sur Europe 1, Jeannie Longo, invitée exceptionnelle de cette émission Les Athlètes de Dieu, que nous vous proposons en collaboration avec Holy Games, le mouvement de l'église catholique qui accompagne les sportifs et les sportives depuis les Jeux Olympiques, en présence d'ailleurs aujourd'hui d'Isabelle de Châtelut, qui est la directrice et qui fourmille de beaucoup de projets, notamment pour le Tour de France, avec une aumônerie qu'Holy Games souhaite lancer. Dans cette émission, on a l'habitude d'allumer, alors on va pas l'allumer vraiment, mais on va quand même l'allumer, on va dire, avec une bougie électrique, pour pas faire de fumée partout dans votre cuisine. Parce
qu'on est dans votre cuisine. Mais les odeurs surtout, là, la verte, la rose.
C'est vrai, ça sent pas forcément très bon, alors qu'ici ça sent très très bon, on a des huiles essentielles. Je vous propose la bougie, qui est la bougie, je crois, qui est la bougie verte.
Par ta victoire, grandit son éclat.
Alors, par ta victoire, grandit son éclat, c'est le psaume 20. Le refrain, c'est « Seigneur, le roi se réjouit de ta force, quelle allégresse lui donne ta victoire. Tu as répondu au désir de son cœur, tu n'as pas rejeté le souhait de ses lèvres. » Je trouve ce psaume magnifique, est-ce que vous êtes d'accord?
Comment dirais-je? C'est toujours un petit peu dominateur, tout ça.
Moi, alors, je vais vous dire, on a choisi avec Isabelle et l'équipe Holy Games et Europe 1 cette première bougie. Pourquoi? Parce que vous avez consacré une grande partie de votre vie au cyclisme.
Oui.
Et dans ce psaume, il semble que le Seigneur dise, mais bravo. Bravo, Jeannie Longo, d'avoir
si
mis votre talent, vraiment, d'avoir utilisé votre talent, d'avoir décelé et d'avoir donné le maximum de vous-même. Parce que vous êtes allé au-delà même de vos forces.
Si vous le voyez comme ça, je veux bien. C'est vrai que par ta victoire grandit son éclat. Oui, sûrement. Quelqu'un qui met en valeur, comment dirais-je? Moi, j'ai essayé de mettre en valeur ma nation, d'être...
La France.
Être assez patriote. Mmh. Bah, au départ, ce serait mentir que de dire qu'au départ, je pensais à ça. Parce que quand on commence une carrière... les premières victoires, c'est un peu pour soi, on se dit c'est formidable, j'ai été championne de France et tout. Mais après, c'est vrai que quand on est dans des championnats du monde, malgré tout, il y a quand même des concurrences nationales. qui sont face à vous. Notamment, moi j'avais des amies américaines qui m'ont fait prendre conscience qu'elles aussi, elles avaient envie de mettre haut leur nation. Et après, ça m'a fait prendre conscience que moi aussi, finalement, je pouvais mettre en avant ma nation.
Ça, ça a été une force supplémentaire de représenter son maillot, d'être un peu... vous êtes cocardière d'une certaine
façon. Je pense que ça l'a été, oui. Parce que j'ai eu des grands-mères, notamment ma grand-mère paternelle, qui a perdu son fils, un de ses fils, et puis son mari à la guerre. Et qui priait d'ailleurs énormément. Elle était tout le temps avec son missel et tout. Et son missel et son chapelet tous les soirs, ouais. Parce que justement, elle était en noir, comme les Italiennes qui ont perdu leurs proches, quoi. Et oui, elle était très, très, très croyante, ma grand-mère.
Et, ça a été un exemple pour vous, là, votre grand-mère, justement, et cette façon de vivre sa foi, ça vous a...
Ça m'impressionnait de la voir tous les soirs. Elle allait dans son fauteuil. Elle s'isolait dans une petite pièce, et puis elle était dans son fauteuil, et elle avait son chapelet, et elle disait des prières. Et elle disait toujours, on savait qu'elle priait pour nous. On était petites, on ne se rendait pas bien compte.
Elle a pu vivre un peu vos victoires, ou pas du tout?
Je me rappelle une réflexion, c'est que j'étais arrivée avec mon vélo carbone, tout carbone, chez elle. Elle m'avait dit, il est vilain, ton vélo est tout noir. Il est bien vilain, il est tout noir.
Alors que c'était un vélo, évidemment, très moderne. Et
oui, il était en carbone, oui, c'était les premiers carbones.
Les premiers carbones, parce que vous avez vécu aussi la révolution du vélo, hein, Jenny Longo.
Oui.
J'ai évolué d'une façon...
La révolution des roues carbone, oui. Des roues pleines, comme on appelle, qui étaient d'abord paraboliques.
Oui. Et le vélo, c'était une évidence pour vous? Parce que vous avez dit au début de cet entretien, vous avez fait du ski, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Ski alpin.
Oui, mais mon ambition était quand même de marcher en ski alpin, ouais. D'être forte en ski alpin.
Donc d'être, pourquoi pas, championne de France, participer aux Jeux et d'être...
Bon, alors j'ai fait le championnat de France, ma meilleure place c'est quatrième en slalom.
Ah, mais c'est
Perrine Pellen, ma copine, qui avait gagné. C'était l'époque de Perrine Pellen.
Ah oui, pas mal.
Qui est 2 ans de plus jeune que moi.
Oh, mais c'est un groupe phénoménal. C'est-à-dire que vous aviez un niveau de ski...
J'avais un bon niveau, ouais.
Parce que vu votre gabarit, effectivement, vous n'êtes pas très grande.
Mais j'avais des cuisses. J'avais vraiment des bonnes cuisses.
Donc entre les pieds, ça volait.
Oui, oui, j'avais beaucoup de puissance dans les cuisses. Et ça, d'ailleurs, ça m'a aidé après dans le vélo. J'ai gardé cette puissance, le rapport poids-puissance.
Ah oui.
Après, j'ai abaissé mon poids de forme et donc j'avais un rapport poids-puissance qui était très bon parce que j'avais toujours de la puissance et un poids inférieur donc qui me permettait de grimper.
Comment on change de sport? Comment vous avez choisi? Est-ce qu'il y a un lien commun finalement entre le ski et le cyclisme?
Beaucoup de skieurs s'entraînaient l'été à vélo. Mon mari notamment, qui était en équipe de France, faisait du vélo tout l'été. Et, enfin, en stage d'entraînement et tout. Et puis... habitant la Haute-Savoie, j'ai des tas de gens qui viennent en cyclotouriste, qui viennent faire des cols, qui viennent gravir des cols chez nous. Donc, instinctivement, je prenais mon vélo. J'ai toujours été à l'école à vélo. Le vélo était mon moyen et d'amusement quand j'étais toute petite, et puis de locomotion. À l'hiver, j'allais pas à l'école à vélo parce qu'on avait des mètres de neige à l'époque. Mais j'allais gravir des cols. J'aimais beaucoup prendre mon vélo, monter un col et m'asseoir. C'est pas très pro ce que je faisais, mais je m'arrêtais dans un champ et puis j'adorais regarder la vallée et réfléchir. Ouais.
Peut-être aussi une prière d'une certaine façon, en tout cas s'élever vers...
Oui, c'était de la réflexion, Oui, j'aime bien prendre la hauteur, vous voyez. Ouais.
Et donc du coup, le cyclisme est arrivé.
Oui.
Et là, vous avez décelé, parce que quand on fait un choix, quand on est quand même quatrième au championnat de France et qu'on a des chances d'aller disputer...
Bah non, j'étais trop vieille. Non, à 15 ans, on a déclaré que j'étais trop vieille.
À 15 ans?
Oui, à l'époque, les filles marchaient. Enfin, il fallait être détecté dès l'âge de 12-13 ans. Bon, c'était comme ça. Hein.
Alors qu'au cyclisme?
Ah ben, un cycliste, on a plus de marge. Ouais, à l'époque, on prenait les filles très jeunes en équipe de France et... Donc moi, à 15 ans, on a dit que j'étais pas assez bonne. Vous savez, pour les sélections, quand vous êtes en balance, si vous n'êtes pas la meilleure, quand vous êtes la meilleure, les sélections n'ont pas de problème. Mais quand vous êtes en balance sur les derniers, ou, enfin, quand vous êtes avant-dernier, voilà, c'est pas vous qu'on prend.
Quel a été votre premier grand souvenir de sportive? Est-ce qu'il y a un souvenir marquant, un premier souvenir, quelque chose qui a été un peu détonateur pour vous?
Allons bon. C'est pas que ce soit un souvenir. Maintenant, c'est pas le premier souvenir que je pourrais avoir, parce que c'est plutôt la vainqueur aux Jeux Olympiques, hein, forcément. Mais c'est la première fois que j'ai été championne de France, peut-être, parce que ça a été un peu comme une surprise pour tout le monde. Parce que j'arrivais donc du ski alpin. Enfin, j'avais couru tout l'hiver, hein, parce que c'était en. Je crois que c'était en 79, et cette année-là, j'ai été triple championne de France universitaire, ouais, de ski alpin. Et en avril, je me suis alignée, j'ai commencé à courir à vélo. Et puis je crois qu'en juin, j'ai été championne régionale. Donc je suis allée au championnat de France en juillet. Et en juillet, j'ai été championne de France. Donc c'est vraiment l'ascension. En quelques mois, j'ai été championne de France. Tout le monde disait, qu'est-ce que c'est que cette fille à grosses cuisses? J'étais vraiment volumineuse. Enfin, j'étais pas affûtée. Hein. Je crois que j'aurais pas... voilà, et j'y pensais pas. Hein. Je pensais pas du tout pouvoir être championne.
Et Jeannie Longo, votre... premier souvenir, ou votre accroche à la foi, vous l'avez dit tout à l'heure, pas de pratique, si je puis dire, régulière, mais quelque chose de très spirituel.
Alors, ce qui est toujours spirituel, c'est généralement quand j'avais des victoires. Ce qui est bien, c'est qu'à vélo, on a une tradition, d'ailleurs qui se perd, c'est d'offrir un bouquet à la vainqueur, enfin au vainqueur. Et généralement, mes bouquets, j'allais toujours dans une église de n'importe quel village, enfin, ou de ville. J'allais dans l'église et je le portais à la Sainte Vierge, voilà. Et en pensant à tous mes proches, et voilà. Donc, toujours une prière à la suite de mes victoires. C'est moins pour remercier que pour penser aux autres, voilà.
Donc, les églises, c'était un passage obligé quand vous.
Ah, c'est tout, ça allait toujours. C'est très très rare que je ne visite pas une église, que je fasse pas un passage dans une église quand je vais dans un endroit que je ne connais pas.
La plus belle que vous ayez visitée, Jeannie?
Cool. Bon, je pense que c'est grandiose, c'est Albi. La cathédrale d'Albi, qui est vraiment extraordinaire, quoi. Mais après, une petite église bretonne, toute en pierre brute, ça peut être joli aussi, quoi. C'est-à-dire, l'essentiel pour moi, c'est que c'est la spiritualité de l'église, c'est-à-dire c'est le silence, c'est le fait de rentrer dans un endroit qu'on respecte.
C'était une petite bulle pour vous après une course
c'est possible.
Où il y avait plein de monde, plein d'attention.
Oui, c'est possible. Oui.
Et ça vous permettait de faire descendre un peu les battements du cœur, des émotions, de reprendre...
De reprendre contact avec tous ceux qui m'aidaient par la pensée, hein, c'est-à-dire ma famille, mes amis.
Jeannie Longo, il y a quelques instants, vous nous avez fait cette petite révélation, en tout cas, vous nous avez témoigné de votre souhait, après chaque course, d'aller dans les églises et de déposer un bouquet. Et il était, c'était important de le signaler, il était pour la Vierge Marie.
Oui, pour la Vierge.
Alors pourquoi la Vierge Marie?
Parce que j'ai l'habitude de prier la Vierge. Oui.
C'est un peu votre maman du ciel, d'une certaine façon.
C'est cela, oui, oui.
Elle est toujours à vos côtés.
C'est une femme, elle est proche de moi.
Quand on dit d'ailleurs que les femmes ont un rôle important dans la société et surtout dans l'Église, ça l'est, puisque c'est la seule être terrestre à être Immaculée Conception. Ça doit vous toucher, ça, vous qui avez défendu justement les femmes tout au long de votre vie.
Non, c'est pas ça qui me touche, excusez-moi, à chaque fois je dis non. C'est peut-être justement sa sobriété, c'est le fait qu'elle soit toujours un petit peu en retrait par rapport à son fils. Parce que c'est toujours son fils qu'on met en avant, c'est celle qui a procréé, quoi, qui a mis au monde Jésus, et c'est sa douceur, je pense qu'on a toujours représenté la Vierge comme quelqu'un de doux, avec des couleurs pastel, le blanc, le bleu ciel, et donc je pense que c'est ça qui m'attire.
Je me demandais, quand il y a des moments difficiles, vous êtes sur votre selle, votre guidon, dans un col. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'êtes pas dit Jésus ou Vierge Marie, aide-moi?
Non. Alors, je dis encore non, malgré tout.
Mais non, mais je pose une question.
Alors, dans l'effort, non, dans l'effort, je suis carrément. J'ai toujours été concentrée sur mon objectif, sur l'effort. Peut-être que je pensais indirectement à mes parents, peut-être, ou à mon mari, mais c'est plutôt pour avoir de la force, mais. En général, la prière, c'est plutôt dans des moments difficiles, mais pas physique.
Pas physique?
Non, pas physique.
Le physique,
physique, c'est votre corps qui répond. Ouais. C'est votre corps qui...
En fait, vous demandiez, Jeannie Longo, pour des choses peut-être plus importantes que qu'une victoire.
Il y a ma chatte qui vient se faire câliner.
Eh ben, elle peut venir, elle est où?
Câline, elle parle très fort.
Parce qu'il faut quand même dire qu'on est au milieu d'animaux, hein, Jenny Longo.
Oui.
Vous avez combien d'animaux?
Ben, ça dépend, dehors ou à moi ou à la nature, parce que j'en ai d'autres.
Ah ouais, dehors déjà, dehors dans le jardin, là.
Non, alors j'ai une chèvre, une brebis, j'ai 3 chats, et puis j'ai un écureuil, j'ai 2 corbeaux.
C'est génial.
Des sangliers.
Ah, des sangliers aussi?
Oui, qui sont tous très très proches de moi, mon mari et moi, en fait, qui ont l'habitude.
Et ils piétinent pas tout sur leur passage?
Si, non, ils sont pas gentils. Non, ils sont ingrats. Parce que
On reviendra avec vous, Jenny Longo, sur cette partie nature qui est évidemment très importante pour vous. Dans ce...
J'ai un renard aussi, j'ai oublié.
Un renard aussi. Alors, dans cette... Bon, il est où, là, ce renard? Parce que...
Ben, il vient le soir. Ah. Il y en a un qui venait contre la porte-fenêtre, là.
Alors, dans cette émission, on aime bien aussi se référer à des saints ou à des personnalités importantes.
Oui.
Le pape Léon XIV,
oui.
Au départ de la dernière étape du Giro, qui a traversé la cité du Vatican, s'est adressé aux cyclistes avec ces termes. « Merci pour tout ce que vous faites et soyez vraiment des modèles. J'espère que tout comme vous avez appris à prendre soin du corps, l'esprit aussi est toujours béni, que vous êtes toujours attentif à l'être humain, dans son ensemble corps, esprit, cœur et âme. Et que Dieu vous bénisse. »
C'est très bien ça. Ah, j'ai dit là, je suis... Voilà,
là, vous êtes d'accord.
Je suis d'accord, c'est très bien.
Qu'est-ce qui vous touche le plus? C'est cette combinaison entre le corps, l'esprit, le cœur et l'âme. C'est
Oui, c'est-à-dire que un humain est complet si il ne pense pas qu'à en effet à gagner. C'est pas facile quand on est athlète de haut niveau parce qu'on a tout un environnement qui vous pousse à faire que ça en fait, qui ne pense qu'à vous dire qu'il faut gagner, vous êtes fait pour ça, faut s'entraîner, etc. Ça n'empêche pas qu'on n'oublie pas les autres et puis on gagne. J'ai eu l'occasion de le dire, on essaye de gagner de la meilleure manière possible, c'est-à-dire pas en écrasant l'autre et puis avec des attitudes qui peuvent être méchantes. Dans le cas d'un peloton par exemple, moi j'ai toujours été contre les manœuvres qui font pas attention aux autres. C'est comme ça qu'il y a énormément de chutes, parce que maintenant les arrivées au sprint, ceux qui lancent les sprints s'arrêtent de pédaler, quitte à créer une chute derrière. Je veux dire, ça c'est, il y a des attitudes qui sont là, c'est très technique, hein, mais c'est des attitudes qui doivent pas être, parce qu'on doit penser à l'autre. On se dit, c'est pas parce qu'on veut, on veut que son leader gagne qu'il faut faire tomber les autres derrière. Ça c'est pas quelque chose qui se fait, quoi.
Pour vous, c'était toujours important, Jeannie Longo, de gagner à la loyale.
Oui. Et puis, on n'est pas des anges. Hein. Quand on veut gagner, on gagne. Mais j'ai jamais mis quelqu'un. Enfin, si j'ai fait tomber, c'est sans le faire exprès, quoi. Je veux dire, je pense pas que ça me soit arrivé souvent. Alors que moi, j'ai été victime de. J'ai chuté parce qu'on m'a balancé.
Ah oui.
Ouais. Donc c'est des choses qui se font pas.
Vous vous en souvenez?
Oui, je m'en souviens bien. Oui, plusieurs fois.
Et puis il y a eu cette affaire aussi aux Jeux Olympiques, vos premiers Jeux, ça a été compliqué, je crois.
Alors les premiers Jeux, oui, c'était un gros trou noir là. Et en fait, c'est ce sentiment de honte, alors qu'on ne doit pas avoir honte, mais c'est un sentiment de honte par rapport à tous ceux qui nous attendent. Et on se dit on a été mauvais, et je pense que c'est dommage d'avoir ce sentiment-là, à recul, je dis que, maintenant que moi je suis...
C'était Los Angeles, c'était ça?
C'était Los Angeles, ouais, en 84. Ouais. Maintenant que je suis spectatrice, je me dis, non, c'est raté, c'est triste pour ce pauvre garçon, mais il n'a pas à avoir honte, il n'a pas à aller se cacher dans un trou parce qu'il a raté ce qu'il devait réussir.
Mmh. Et ensuite, vous avez réussi à vous relever, il faut toujours se relever de ses défaites.
Oui, mais parce que j'ai quand même un entourage, j'ai eu donc des parents qui me disaient que ce n'était pas grave, parce que ils ont toujours été sportifs, compétiteurs et tout, mais j'étais quand même leur enfant. C'est d'abord l'affection qui prime. Et puis dire que eux, ils avaient du recul, c'est-à-dire qu'il y a d'autres choses dans l'existence, tu rates tes jeux, c'est très triste, mais voilà. Et puis il y a mon mari qui, lui, compétiteur dans l'âme.
Patrice, je crois.
Oui, Patrice, qui, lui, ne m'arrête jamais, ne s'est jamais arrêté sur un échec.
C'était votre, donc, votre lui, moteur tout de suite, aussi, dans
oui,
la tête.
Oui, oui, oui. Ouais. Donc tout de suite, lui, il m'a dit, maintenant tu vas faire ci, on va partir sur une autre compétition, etc., que j'ai gagné derrière, mais ça n'a pas été tout de suite, mais... C'est sûr, il aime pas l'échec, il aime pas le baisser les bras, c'est pas son truc.
Ah, vous avez été un formidable duo.
Oui, je crois. Pas si formidable, mais on l'a été, oui.
Vous en rigolez encore, non? D'une certaine façon, en disant qu'est-ce
parce que c'est un duo infernal, parce qu'on se dispute très souvent. La foi m'a aidé, parce que justement, je pense que j'ai plus de foi que mon mari. Enfin, je connais pas sa foi, mais ça m'a aidé à dire bon, bah, il faut tenir le coup, quoi. Faut tenir bon.
Vous partagez pas.
Et bon, ça c'est ouais, chrétien quand même, ça.
Oui. Ça c'est effectivement.
Faut tenir bon parce que maintenant les couples se défont pour un rien, etc. Et là, je pense que la foi m'a aidé.
Parce que vous êtes un modèle de longévité sportive, une sportive de incroyable. Oui. Je pense que là, à 67 ans, avec tout ce que vous avez fait, vous continuez encore, je crois.
Ouais, enfin là, j'ai un peu baissé quand même, parce que j'ai baissé d'intensité.
mais vous êtes un modèle de longévité de couple, vous êtes un modèle de couple, vous êtes
mariée. Oui, bah, on a vécu des tempêtes, comme beaucoup de couples, et puis c'est ce que je vous dis, bon, je me suis dit, faut tenir, quoi, c'est idiot, de toute façon, l'idéal n'existe pas, et puis, voilà.
Jenny Longo, dans cette émission Les Athlètes de Dieu, on va continuer, comme le veut la tradition, d'allumer une bougie virtuellement pour ne pas faire de mauvaises odeurs dans votre cuisine. Alors la deuxième bougie,
c'est un bonbon anglais.
C'est celle-là.
Alors elle est encore rose, mais elle est grande celle-là. Les derniers seront les premiers. Ah oui, ça c'est... Si on dit ça dans le sport, c'est pas forcément vrai.
Surtout pour vous.
Bah, j'ai été dernière des fois, mais c'est pas dit qu'on puisse être premier tout le temps si on est dernier. Mais je pense que ce qu'il faut surtout dire, c'est que même si on est dernier, l'essentiel, c'est qu'on ait donné le maximum. C'est-à-dire qu'on soit fier de cette question de fierté, qu'on soit content et de ce qu'on a fait, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pas avoir tous les capacités d'être premier. Hein, on peut pas. Par contre, on peut tous avoir l'ambition d'être le meilleur de ce qu'on peut être. Dans un domaine, si on a décidé de l'être. Alors, c'est vrai que c'est décourageant si on est toujours dernier. Mais justement, c'est vrai que des fois, quand on a trop d'ambition, on n'est pas dans le niveau qu'on doit être. C'est-à-dire qu'il faut chercher à s'élever, c'est vrai. Mais si on est trop souvent dernier, c'est un peu décourageant. Donc, il faut peut-être chercher à être un peu meilleur dans sur un niveau qui est moins ambitieux, peut-être.
Mais est-ce que c'est cette ambition et ces résultats qui vous ont permis de tenir parce que vous êtes déjà arrivé vraiment en dernière, c'est déjà arrivé
Non, mais quand je dis dernière, c'est un échec. Bah, comme Los Angeles, par exemple, c'est un échec.
Pas de médaille,
à ski, j'ai souvent perdu. Enfin, j'ai pas toujours été première. Mais les derniers seront les premiers. Je pense qu'il faut le voir dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est pas dramatique d'être dernier. C'est pas... Comment l'expliquer ? Enfin, vous avez compris.
Bien sûr. Mais quand vous avez eu ces moments délicats, ces moments d'échec, vous ne vous êtes pas arrêté à ça. Et c'est ça qui peut être intéressant pour les auditeurs d'Europe 1 de cette émission Les Athlètes de Dieu. C'est-à-dire que Jenny Longo, qui est une immense championne, a vécu des trous d'air, a vécu des moments compliqués.
Oui, bien sûr. On a tous des échecs. Ben, on a des aussi. Il y a des chutes. Il y a des moments où on a le corps qui répond plus parce que on s'est fait très mal. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu un ou deux gros accidents avant des Jeux Olympiques, notamment avant Atlanta. J'ai eu un pneumothorax avec 6 côtes cassées. Et c'était 7 à 8 semaines avant l'Atlanta.
Et avant la médaille d'or.
Et la pneumologue m'avait dit, ben, les Jeux, c'est fini, quoi. Donc elle m'avait dit ça. Et elle m'a dit, les Jeux, vous pourrez pas y aller. Donc j'ai pleuré un petit coup et tout. Et puis, ben, j'ai dit, bon, j'attends 15 jours de cicatrisation. C'est-à-dire, pour refaire l'os, c'est à peu près 15 jours quand on est en santé. Et après,
c'est incroyable ce que vous dites. C'est-à-dire que le médecin vous dit stop et en fait, vous êtes tout de suite, vous avez contredit d'une certaine façon. Là.
Oui, mais je me suis aussi fracturé le trochanter avec déplacement en 88. C'était avant les Jeux de Séoul. Et là, en fait, normalement, c'est pareil. Là, c'est 5 semaines d'immobilisation normalement. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, 15 jours, j'ai recommencé à faire un peu de vélo. C'est extrêmement douloureux parce que le trochanter, c'est le sommet du fémur.
Ça
fait extrêmement mal, on a l'impression qu'on n'a plus de jambes. Enfin, par contre, là, le médecin de l'équipe de France m'avait dit, c'était Gérard Porte, hein, qui était quelqu'un très bien, il était médecin du Tour de France aussi. Hein. Il était venu me voir dans ma chambre, et puis bon, bah, je lui disais, c'est fichu, les Jeux Olympiques. Il m'a dit, tu sais, le corps humain, bon, on ne sait pas. Il me dit, c'est imprévisible. Il m'avait redonné le moral, parce que lui, au contraire, il n'avait pas été catégorique comme disant, c'est fini. Alors que je pense que dans son fort intérieur, il le savait. Mais il avait dit, un corps humain est inconnu encore. Hein. Et c'est vrai qu'on ne peut jamais dire à un malade que c'est fini. C'est quelque chose que je ne supporte pas, on ne dit pas ça. Pendant la guerre, on a vu des blessures incroyables, de gens qui ont réussi à se relever, quoi.
Et vous avez gagné ensuite cette médaille d'or. On va terminer cette deuxième partie ensemble. La médaille d'or à Atlanta.
Oui.
Et là aussi, il a fallu être très courageuse. Grosse chaleur.
Oui. Courageuse, oui, dans la douleur. Après l'accident, bien sûr, ça faisait très très mal. Bon, et puis j'avais cet objectif-là. Et puis bon, après, il a fallu être tactique dans la course, oui. Il y avait eu un gros orage, des chutes.
C'était quoi la tactique à l'époque ?
De me porter à l'avant pour éviter les chutes, donc attaquer assez, assez rapidement.
Et ça a marché ?
Ça a marché, oui.
Et c'est l'une de vos plus belles victoires ?
C'était mes 84e jeu. Donc, j'étais prête.
Superbe victoire et superbe entretien que nous vivons ensemble sur Europe 1 dans les Athlètes de Dieu depuis la cuisine de Jeannie Longo. Ça, franchement, si on m'avait dit, j'aurais cru personne.
On n'est pas obligé de dire qu'on est dans la cuisine, c'est parce que les murs
sont... Non, mais je trouve ça formidable. Et on est sur les hauteurs de Grenoble et le soleil est en train d'apparaître.
Voilà,
c'est merveilleux.
On va éteindre. Je vais aller éteindre, c'est sympa le soleil.
Et Jeannie Longo, j'avais promis aux auditeurs de refaire un petit peu un point sur votre palmarès. On va la refaire gentiment parce que je sais que c'est pas le but pour vous et que l'humilité est un de vos traits de caractère. Mais quand même, on est tellement heureux d'être avec vous. 7 participations au jeu et vous avez été championne olympique en 96. 13 titres de championne du monde. 3 Tours de France, 3 victoires en Tour de France. Ça, c'est aussi incroyable. Triple championne du Tour de France. Enfin, c'est faramineux. Et 60 titres, plus de 60 titres de championne de France de cyclisme. Mais comment est-ce possible, Jeannie ? Non mais Jeannie, c'est fabuleux. Vous êtes bien.
J'ai pris le temps, c'est pour ça.
C'est incroyable. Qu'est-ce que vous faites de tout ça, de ce palmarès ? Vous le regardez de temps en temps, vous dites oh là là, c'est...
Non, mais c'est vrai qu'avec le recul, parce qu'en fait, maintenant je suis spectatrice quand même, hein. Donc je regarde et tout, je dis quand même, ils sont forts là, oh là 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 là, quand je regarde, oh là là, je regarde les joueurs, champions olympiques, c'est chouette quand même, c'est fort et tout, puis après je me dis, mais finalement je l'ai fait aussi, voilà. Donc, c'est comme ça. Ça s'est enchaîné, hein, pas facilement, non, parce qu'une carrière n'est jamais facile, mais ça s'est enchaîné comme ça, quoi, d'une année à l'autre. Les saisons recommencent, c'est vite là. C'est vrai que pendant des années, j'ai dit, j'arrête.
Combien de fois vous avez dit ça ?
De nombreuses fois.
Et à chaque fois, vous repartiez ?
Ben oui, le mois de février, là, janvier, février, là, Pendant un moment, les organisateurs m'appelaient déjà en février, mars, pour que je fasse les premières courses en mars, parce que comme j'étais assez offensive dans ma façon de courir, même pas mal, enfin vous voyez, un peu Pogacar, quoi, donc Pogacar. Ça mettait de l'ambiance dans les courses, donc les organisateurs aimaient bien que je sois là.
Et aujourd'hui,
à Montréal, on m'appelait aussi pour venir.
Oui, ouais, donc du coup, vous continuez.
Je dis bon, si vous insistez, je vais venir. Enfin voilà. Donc il faut bien s'entraîner après.
C'est sympa.
Il y a aussi quelque chose. C'est vrai que j'avais eu un tel niveau. Je me disais, c'est quand même dommage que ça retombe, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est. Après, on se dit, c'est quand même, c'est bête parce que si j'arrête de m'entraîner et tout, je vais être mauvaise. Je vais plus avancer. Enfin voilà, c'est un petit peu cette chose là qui me trottait dans la tête.
Est-ce qu'aujourd'hui, à 67 ans, vous continuez à faire du vélo ?
Oui, mais ça, c'est plus pour l'hygiène, c'est-à-dire c'est pour le maintien de l'organisme. Oui.
Mais c'est quoi, par exemple, une sortie avec Jeannie Longo aujourd'hui ?
C'est très court. Là, actuellement, c'est très court. Il fait pas beau. Entre deux averses, par exemple, c'est rien du tout. C'est une heure et demie.
Quand même !
C'est rien du tout.
C'est rien du tout, ça ?
Non, c'est pas grand-chose.
Parce que ça monte hein, ici, alors on a fait...
Oui, mais on part pas forcément d'ici, et puis souvent on met les vélos dans la voiture, et puis on s'échappe un peu de l'urbanisme.
Ouais. Et vous avez vos cartes, vos plans, vous savez où aller ?
On connaît toutes les routes, on connaît toutes les petites routes, tous les raccourcis, tous les petits trucs, les choses pas goudronnées. Ça fait longtemps qu'on fait du gravel, comme ils disent, parce que moi je dis du gravier. Non, mais je suis contre le mouvement, enfin tout ce qui est anglais, le sport est bouffé par l'anglais. Et je fais partie du Haut Comité international pour la lutte pour le maintien de la langue française.
Ah, merveilleux. Alors ça nous plaît beaucoup sur Europe 1.
Oui.
Très important, on a par exemple, j'entendais en tennis le mot rallye. Ben non, c'est un échange.
Ah mais tout, oui. le run, le warm-up, enfin tout est pollué par l'anglais quoi. On a un président qui parle anglais aussi.
Il parle très bien anglais.
Très bien anglais.
Ça peut servir quand même au niveau international.
Non mais bien sûr pour les échanges. Mais ce qui est dingue c'est que par exemple nous regardons les chaînes câblées sportives. Bon parce que les interviews sont faites en anglais. Il y a un français qui interviewe un français en anglais. Ah, attends, il faut arrêter là.
et pour terminer sur justement cette longévité, mais aussi sur le regard des autres, Pauline Ferrand-Prévot.
Oui.
Elle est merveilleuse, championne olympique, oui, elle a gagné le Tour de France.
Un sacré palmarès aussi.
C'est votre digne, alors je ne sais pas si on dit successeur ou successeur.
On n'a pas tout à fait le même parcours, elle n'a jamais fait de piste. Elle n'est pas en contre-la-montre. Bon, pour le moment, elle n'a pas prouvé son niveau. Ouais, je pense qu'elle est bonne aussi. Mais par contre, elle, en VTT, elle en a fait plus, beaucoup plus. Voilà. Elle a fait aussi du gravier, justement. Elle fait du gravier. Et puis elle est très habile parce que justement elle est très forte en tout ce qui est cyclo-cross, même limite trial parce que maintenant le VTT, le vélo tout terrain et non pas mountain bike, n'est-ce pas? D'ailleurs c'est plus un vélo de montagne parce que on s'échappe. Hein, excusez-moi, ça va être trop long, mais parce qu'avant moi j'ai fait du mountain bike, j'ai été vice-championne du monde aussi, hein, mais on partait carrément dans la montagne au sommet des pistes de ski. Alors que maintenant les circuits sont très courts, c'est beaucoup plus technique, c'est très très technique. Oui, mais donc Pauline, oui, a fait quelque chose de bien en ce moment. Ouais. Belle carrière.
Ouais. Vous êtes en contact, pas du tout?
On se voit de temps en temps. Oui, on se voit de temps en temps. J'ai couru avec elle.
Non.
Oui, j'ai couru avec pas mal de filles. Et en 2012, j'ai couru le championnat de France avec elle. En 2011 aussi. En 2011, j'ai couru, elle a été championne de France Espoir, et moi j'étais championne de France Élite, je crois.
Et vous aviez remarqué qu'elle était déjà assez forte?
On était ensemble, on s'est pris des relais, parce qu'il y a eu une échappée, on n'était pas dedans, et on est sorties toutes les deux du peloton, et c'était en 2011, si mes souvenirs sont bons. Hein.
Et ce qui est exceptionnel aussi, Jeannie Longo, c'est qu'il faut se remettre dans le contexte, hein, il y a de nombreuses années... nous étions dans un milieu encore très machiste, le cyclisme.
Oui,
mais peut-être encore, je ne sais pas si ça s'est vraiment ouvert. J'ai l'impression que oui.
Oui, alors je pense que la société était pas mal machiste et qu'elle s'est ouverte dans tous les domaines. Mais il faut faire attention, il faut être vigilant. Il faut que les femmes soient vigilantes parce que c'est un peu facile actuellement. Toutes les avancées et toutes les facilités qu'elles peuvent avoir maintenant, elles peuvent les perdre. Parce que ça a été fait par condescendance, je dirais. C'est le milieu masculin qui a été obligé d'accepter les femmes, parce que sinon c'était plus... Je veux dire, c'était... Il y a eu des mouvements féminins qui ont été très forts, notamment aux États-Unis depuis longtemps, dans les années 80 déjà. Nous, on était en retard sur les anglo-saxons. Mais les femmes peuvent perdre tout. Et puis, ce que j'aime pas, c'est que, les femmes, par souci d'égalité, tombent dans la violence, la vulgarité. Et ça, c'était pas réservé aux femmes, ça.
Vous avez été très digne. Je me souviens d'un petit passage que vous connaissez, où il y a un cycliste qui vous dit les femmes sur un vélo, c'est moche.
C'est Marc, oui.
Marc Madiot, et qu'on embrasse, parce que c'est
très sympa.
Une belle personne.
Oui, très sympa.
Mais
je l'ai vu il y a quelques mois. Ouais.
Vous n'avez pas rediscuté de tout ça, c'est de la...
On a fait, en visioconférence, nous avons fait un échange croisé sur ce problème-là. Bon, de toute façon, c'est oublié depuis longtemps et il a évolué. C'est ce que j'ai dit, il était à l'époque porte-parole de tout un peloton, de toute une génération de jeunes coureurs un peu prétentieux qui étaient considérés comme des dieux dans le Tour de France. Donc quand on est des dieux, des petits dieux... on oublie cette humilité, quoi. Et puis on arrivait, nous, comme des cheveux sur la soupe. Les femmes ont participé au Tour de France. On faisait les 3 semaines du Tour de France. Alors que, normalement, on était en train de faire croire aux gens que c'était fait pour des dieux. Bon, c'est extrêmement dur, le Tour de France pour les hommes. Attendez, je dis pas que c'est facile, mais nous arrivions, on mettait des femmes dans les montées de col. Des Alpes et des Pyrénées, et on pensait que c'était juste réservé aux hommes jusque-là.
Et puis ce qui est aussi frappant, c'est que tout au long de votre carrière, on a oublié de vous féliciter pour ces titres de Tour de France. Alors c'est absolument prodigieux.
Oui, oui.
C'est magistral.
Oui, d'autant que ce n'était pas 8 jours à l'époque. Hein. C'était pratiquement 3 semaines. Hein. Donc 3 semaines. C'était en prologue du tour. Enfin, on était quelques heures avant les messieurs. On n'avait pas les mêmes départs. Attention, on ne faisait pas 240 kilomètres. Hein. C'était à peu près une centaine de kilomètres. Ouais.
On parle des femmes, de la place des femmes dans le sport, dans les athlètes de Dieu sur Europe 1. On peut parler aussi de la place des femmes dans l'Église et dans la foi. Comment vous le voyez, cette figure féminine?
Alors la figure féminine, toujours en réserve par rapport justement à Dieu, à Jésus, aux apôtres qui sont des messieurs qu'on met en avant, et toujours un peu en retrait, c'est-à-dire c'est Marie-Madeleine. Ce sont des femmes qui sont discrètes et qui ont un grand rôle. C'est peut-être un peu aussi le rôle, par exemple, le rôle des femmes pendant les guerres.
Qui ont œuvré énormément.
Des résistantes, des femmes qui restaient dans les fermes, dans les maisons, qui faisaient tourner.
Qui s'occupaient de la famille, qui nourrissaient leur
famille. Et qui faisaient avec peu de moyens, qui faisaient ce qu'elles pouvaient. Donc c'est un peu ça, c'est le symbole de toutes ces femmes qui sont en retrait et qui sont déterminantes.
On se posait la question, en préparant cette émission, Jeannie Longo, quand on reprend un passage de l'Évangile qui est très connu, où Jésus est chez Marthe et Marie. Donc Marthe, c'est elle qui œuvre en cuisine, qui fait plein de choses.
Ma grand-mère s'appelait Marthe.
Votre grand-mère
s'appelait Marthe. Ma grand-mère maternelle, oui.
Et c'est celle qui priait en le...
Non, c'est ma grand-mère paternelle.
Ah, c'est
ma grand-mère maternelle.
Et puis Marie, la contemplative. Et puis Jésus dit, parce que Marthe dit que c'est pas très juste, que Marie, elle est là au pied de Jésus, qu'elle peut discuter avec Jésus, et puis qu'elle, elle est en train de faire toute la cuisine. Et Jésus dit, elle a la meilleure place, Marthe, elle ne le sera pas enlevée. Est-ce que vous êtes plus Marthe, donc plutôt celle qui fait, donc quand on voit vos titres, ou Marie, la contemplative? Vous êtes un peu des deux, non?
Je suis un peu des deux. Je suis de nature contemplative et cérébrale, c'est ce que je dis, je réfléchis beaucoup. Mais oui, je serais sûrement un peu Marthe, parce que je suis très pratique, j'ai quand même ce côté pratique, et puis j'aime bien recevoir, il n'y a pas beaucoup de monde qui vient nous voir, mais je pense que j'aime bien m'occuper des autres, oui.
Mais ça se voit, hein. Nous on a été reçus comme des princes.
Ben non, j'ai rien fait encore.
On est avec Fabien Duchesne qui réalise la technique, vous l'avez soigné avec vos huiles essentielles.
Ah mais oui. Il arrive avec ses microbes parisiens.
Est-ce que vous pouvez lire, cher Jeannie Longo, toujours dans les athlètes de Dieu sur Europe 1, magnifique entretien. Ici, on a un évangile, c'est l'évangile des sportifs, hein, pour les Jeux
Olympiques. Ah ouais, d'accord.
Et donc...
Là, je me mets au soleil, j'ai pas mis de lunettes. Hein. Oui, je le dis sans lunettes. Bon. Jésus se montre à Marie de Magdala. Bon, c'est Marie-Madeleine.
Oui.
Cependant, Marie se tenait près du tombeau, dehors, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se baisse pour regarder dans le tombeau. Elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. L'un à la place de la tête et l'autre à la place des pieds. Les anges lui demandèrent « Pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où il est. » Où on l'a mis. Ayant dit cela, elle se retourne et voit Jésus qui se tenait là, mais sans se rendre compte que c'était lui. Jésus lui demanda, « Pourquoi pleures-tu? Que cherches-tu? Qui cherches-tu ?» Pensant que c'était le jardinier, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où il est, où tu l'as mis, et j'irai le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourne vers lui et lui dit en hébreu, « Rabboni », ce qui signifie « maître ». Jésus reprit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père, mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. » Marie de Magdala se rend donc auprès des disciples et leur annonce, « J'ai vu le Seigneur !» Et elle leur raconte ce qu'il lui a dit.
Jeannie Longo.
C'est l'idée de mettre un ange au pied et l'autre à la tête. C'est marrant l'évangile.
Ouais. C'est superbe cet évangile. C'est une femme.
C'est une femme qui est là pour porter la nouvelle que Jésus est ressuscité. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'elle ne le reconnaît pas. Elle pense que c'est le jardinier qui est l'idée aussi, oui. En ressuscitant, il ressemble au jardinier, c'est bizarre.
Oui, il a peut-être un peu changé de physionomie. C'est le cœur qui lui permet de Marie-Madeleine de découvrir.
C'est sa voix.
Sa voix.
C'est sa voix, je pense. Ouais, quand il lui parle et elle dit maître. Donc c'est sa voix. Moi, je reconnais beaucoup les gens à la voix. Parce que j'ai une oreille musicale, Et je ne suis pas physionomiste du tout. Donc moi aussi, j'aurais peut-être pensé que c'était le jardinier. Mais à la voix, on reconnaît le maître.
Ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme. C'est la première. C'est elle
qui découvre.
Ça montre la.
Mais
la,
ça, surtout, mais ça montre aussi le courage de la femme. C'est-à-dire qu'elle a eu le courage d'aller au tombeau. Parce que personne s'en est occupé, on l'a enterré, c'est fini, quoi. Et elle s'est dit, il faut quand même que j'aille voir, quoi. Et elle est allée au tombeau. Et elle s'est dit, peut-être pour aller, comment dirais-je, je dis n'importe quoi, mais ou le laver, ou l'encenser, ou faire quelque chose, quoi. Et puis, elle voit que le tombeau est vide. C'est pas un homme qui est allé au tombeau. Les hommes, ils se sont dit, bon, c'est bon, on a enterré Jésus.
En tout cas, nous, on ne va pas au tombeau, on va dans la joie, parce qu'on est dans une très grande sollicitude de se trouver chez vous, Jenny Longo, aujourd'hui. Et plus l'entretien se poursuit, plus on a de la lumière et du soleil. Donc c'est absolument...
On va pouvoir voir les montagnes, c'est bien.
Je vais vous demander, Jenny, dans quelques instants, le lieu qui vous apaise, parce qu'il y a forcément un lieu important, ou en tout cas un endroit où vous ressourcez. Mais avant, une phrase du pape François qui nous a quittés et qui, semble-t-il, avait des points en commun avec vous. Il aimait le sport, il aimait les autres et surtout, il aimait la nature. Écoutez plutôt dans son encyclique Laudato Si, consacrée aux questions environnementales, il disait « Vivre la vocation de protecteur de l'œuvre de Dieu est une part essentielle d'une existence vertueuse. Cela n'est pas quelque chose d'optionnel ni un aspect secondaire dans l'expérience chrétienne. »
Très bien. Ouais. Il a raison, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que si on ne se considère pas au-dessus de la nature, en marge, on fait partie intégrante de notre environnement, de la nature, et donc on doit avoir cette vision globale de la nature, et donc on doit s'intégrer et non pas la dominer, quoi.
Jenny Longo, est-ce que votre pratique du cyclisme de haut niveau vous a sensibilisé à ces questions d'environnement et à la beauté de la nature ? En voyant tous ces paysages, et d'ailleurs je ne sais même pas si vous avez eu le temps d'en profiter.
Alors, durant ma carrière, j'ai eu la chance de faire de nombreux pays, de parcourir de nombreux pays, et c'est le vélo, ce qui est bien, c'est ce que j'ai toujours dit, c'est pas comme la natation. La natation, vous prenez l'avion, vous arrivez au centre-ville, et on vous amène dans un grand hôtel, et après vous allez à la piscine. Le vélo, ça a l'avantage, c'est qu'on est dans des campagnes, on fait des courses par étapes. J'ai fait la Colombie, la Norvège, que sais-je encore. Enfin, en Australie aussi. Ce qui est Mexique, ce qui est bien, c'est qu'on peut découvrir la nature. Je me suis beaucoup entraînée au Colorado, dans les Rocheuses, aux États-Unis. Et donc... on découvre la nature, la société aussi, et ce que j'aimais bien faire, c'est souvent, c'est aller sur les marchés. D'abord, par souci de bien manger, c'est-à-dire comme je mange toujours...
Jamais de conserve.
Très rarement, si je suis obligée, mais si je peux avoir des produits frais, je les consomme. Donc bio et frais, et j'ai fait pratiquement tous les marchés du monde, quoi. Et là, on a une idée sociologique du pays.
Le plus bel endroit que vous avez visité, peut-être le plus beau marché et la plus belle route.
Oula.
Jenny Longo.
Bon, les plus belles routes, c'est souvent américain parce qu'elles sont très larges en termes de, comment dirais-je, d'aspect et de roulement. C'est sûrement les États-Unis. Par contre, j'ai vu des paysages extraordinaires, oui, dans des Rocheuses, Colorado, Idaho, tous les Oregon, Montana, j'ai pas fait, mais.
Puis la France. Jenny, la France.
Ah bah la France, moi je connaissais pas trop la France parce que je connaissais juste les Alpes en fait, je connaissais les Alpes françaises, italiennes, autrichiennes, parce que j'étais skieuse donc, mais après grâce au vélo, j'ai connu la France parce que c'est souvent l'Ouest que je connaissais très mal, mis à part peut-être un peu la Vendée parce qu'on allait à la Baule ou je sais pas où, à la mer, mais à l'océan. Après, ouais, j'ai connu toute la France. Encore l'année dernière, là, en 2025, nous sommes allés faire le championnat de France master. Donc, c'est pour les personnes de 35 à plus. Et c'était dans le Cotentin.
Donc, vous avez encore gagné?
Ouais, je crois que j'ai gagné contre la montre, oui. Oui, oui.
C'est fou. Oui. Ah, oui, donc, vous continuez à gagner, en fait.
Non, mais ça, c'est dans ma catégorie. Mais non, contre la montre, j'ai fait un bon... Par rapport aux jeunes, j'étais pas trop mal. Et... Ouais, c'est sympa, on était dans le Cotentin. Bon, on est arrivé dans le Crachin, bien sûr, mais après, il a fait beau. Et bah, on s'est mis contre l'église. On avait un camping-car, on s'est mis contre l'église.
Alors,
c'était sympa.
Le vélo est souvent...
On demande juste que les carillons, les cloches ne sonnent pas jusqu'à... Enfin, en pleine nuit, quoi. C'est, tous les quarts d'heure, c'est difficile, mais...
Je voudrais vous poser une question sur le vélo qui est présenté comme, on va dire, un mode de déplacement vertueux. Est-ce que pour vous, c'est bien ce développement du vélo dans les grandes villes françaises et un peu partout ?
Alors, oui, bien sûr que les pistes cyclables, c'est toujours agréable. Bon, des fois, je trouve que... Ouais, je dis quand même... quand même, je tiens à spécifier que longo vélo sac à dos, ça a été ma pratique il y a, j'ai 67 ans, il y a 40 ans de ça, j'étais la seule. J'étais au conseil municipal, etc. Et je me déplaçais, j'allais sur les marchés, en vélo et en sac à dos, j'étais la seule. Et on dit, ah, Janine Longo, vous êtes arrivée à vélo, vous êtes venue à vélo. Donc, bon, ça s'est vraiment démocratisé. Et nous, chez nous ici, là, on voit beaucoup de vélos électriques partout. Ouais. Parce que comme c'est quand même des routes de montagne, les gens vont. Rentrent chez eux à vélo électrique. Donc ça a été aussi un très gros progrès, c'est le vélo électrique. Bon, les gens font pas trop d'efforts en général avec un vélo électrique, hein, c'est quand même pas très physique. Mais il y en a certains, si, mais pas d'autres. Par contre, oui, les pistes cyclables, c'est pas mal, mais il faut pas que ça prenne, faut pas que ça pourrisse la vie des automobilistes non plus. Il faut qu'il y ait un équilibre. Oui. Parce que des fois, il y a des pistes cyclables, c'est des autoroutes, et il n'y a pas grand monde dessus. Nous, à Grenoble, il y a quand même beaucoup de cyclistes, oui.
Donc il faut partager le.
Bah oui, il faut pas, il faut pas, faut pas frustrer les automobilistes, quoi. Il faut pas leur rendre la vie impossible.
Alors Jenny Longo, on est à la montagne. Est-ce que vous avez un lieu de ressourcement? Ça fait partie des questions rituelles hein, dans cette émission.
Ah mais lieu de ressourcement, c'est justement la montagne.
Il n'y a pas un lieu en particulier?
Oh, pas spécialement, non. Moi, mon plaisir, c'est de prendre un chemin et puis. J'adore regarder des traces et dire, tiens, il y a les crottes aussi. C'est très utile de voir les crottes. Tiens, il y a eu un chevreuil, il y a eu un cerf. Voilà, j'adore ça. Il y a peut-être eu un lynx aussi, mais c'est pas facile de voir la différence. Il y a beaucoup de promeneurs avec des chiens, mais quand on voit des traces qui ressemblent à un gros chien avec des griffes et puis qui sont carrément en dehors des chemins, il y a quand même toutes les choses. Sans pas d'homme à côté, c'est intéressant de voir les traces.
On est à côté de la Chartreuse, des Chartreuses, enfin de ce monastère.
Oui, magnifique, la grande Chartreuse, extraordinaire.
Ça...
J'y vais à vélo des fois.
Ah, vous y êtes... ouais. Et vous revenez les mains vides ou...
Non, mais on fait.
Ils ont une spécialité
c'est vrai.
Qui se boit, mais avec modération.
Ah, oui, d'accord. Oui, on peut remettre dans le bidon, bien sûr. on revient plus vite.
La dernière bougie que nous souhaitons allumer ensemble, c'est une bougie jaune.
Bon, comme le maillot jaune, on fait le maillot vert, maintenant on fait le maillot jaune. Puisez votre énergie dans le Seigneur. Alors si c'est une énergie spirituelle, je suis d'accord. Si c'est une énergie physique, bon, ça peut l'être. Ça peut l'être quand on est vraiment déprimé et au fond du trou, quand... Quand tout va mal, oui, ça peut nous redonner de l'énergie, mais je pense que si on prie le Seigneur, c'est pas pour être fort physiquement, si on le voit dans ce sens-là. Mais l'énergie mentale, oui, on peut. Enfin, l'énergie mentale, pas pour dire je vais être le meilleur, mais quand on n'a plus de ressources morales, le Seigneur, mais c'est ce que je vous dis, moi c'est plutôt Marie.
Très belle figure. Est-ce qu'avec Marie, ça vous a aidé à faire des choix radicaux? C'est un choix d'être une championne de très très haut niveau?
Non. Marie m'a aidé dans mes choix de tous les jours. Dans mes difficultés de tous les jours. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on n'a plus de recours physique. Quand on ne sait plus quoi faire, quand les choses vont pas, quoi, c'est normal qu'on se tourne vers quelqu'un qui puisse vous aider à encaisser cette chose-là ou à lui demander que ça aille mieux.
Et...
Alors après, c'est la force de la pensée, en fait.
Oui. Et c'est vrai que, en tout cas, on peut dire que vous avez été béni avec toutes ces, tous ces titres, toutes ces victoires.
Pas pour moi. Je veux dire, on prie pas que pour soi. Justement, ma grand-mère m'avait toujours dit, je prie pour vous. Oui. Elle priait pour. On peut prier pour les autres, quand même.
Et ça vous arrive évidemment de,
bien
de penser.
Bien sûr, on prie pas pour soi.
Quelle est Marie, une personne pour vous importante, qui dans la foi évidemment un rôle essentiel. Il y a une figure féminine qui vous a particulièrement aidé dans la vie.
Ma mère peut-être.
C'est elle qui vous a donné toute
ma mère
éducation.
Ma mère était une femme née dans les années 20. Donc à la sortie de la guerre, c'est des femmes qui ont 20 ans quoi et qui se sont battues pour nous en fait, qui se sont battues pour les générations d'après. Hein. Ça a été les suffragettes, ça a été toutes ces femmes qu'on considérait pas, qu'on le seul rôle qu'on leur donnait c'était d'être à la maison et puis d'élever leurs enfants, ce qu'ils ont très bien fait. Hein. Moi j'ai toujours dit que le rôle de la mère a été dévalorisé. Et qu'il fallait justement, moi j'en avais parlé à des hommes politiques, et je pensais qu'il fallait salarier une femme à la maison.
Bien sûr.
Parce que très récemment encore, j'ai été chez le notaire, il y avait une femme qui avait eu 5 enfants, élevé 5 enfants de façon magistrale, des enfants qui ont bien réussi, tout, profession 100. Ça c'est pas acceptable. C'est pas une profession, mais le rôle de la femme, de la maman, d'éducation, ça peut être le père aussi. Hein. Mais l'affection que peut donner une mère et tout ça aurait dû être mise en avant beaucoup plus que ce qu'on a fait.
Il a fallu surmonter son départ, Jenny Longo, ça a dû être...
Oui, mais le départ des parents, parce qu'après on se dit, c'est nous. C'est nous. On perd ses piliers, on perd ses repères. Déjà, la dégénérescence des parents, qui vous portent et puis qui sont beaucoup, qui deviennent faibles, c'est vous qui avez à les porter un peu sur la fin, quoi. Donc là déjà c'est un traumatisme parce que on passe de d'enfants qui se reposent sur les parents, même si on a 50 ans ou plus. Et après on se dit c'est nous qui devons être forts. Et puis on voit des parents qui deviennent faibles, ça nous choque parce que c'est pas l'image qu'on a des parents.
Vous avez fait ce choix du cyclisme de haut niveau avec une fécondité qui est passée autrement que par une famille nombreuse, justement.
Ben oui.
Mais c'est une fécondité qui est magnifique.
On pourrait pas dire que c'est magnifique parce que je regrette quand même de pas avoir eu d'enfant, mais peut-être que j'ai quand même été maternelle avec. Je pense que j'ai donné l'affection que j'attendais. Peut-être que je l'ai donnée aussi à mes supporters, à d'autres personnes, à mes neveux et nièces aussi, peut-être. Oui, il faut leur demander.
Aux Français, parce que quand
aux Français, aux animaux, voilà.
Mais oui, c'est beau, c'est une belle transmission, c'est une belle vie. Vous êtes fière de tout ce que vous avez accompli, Jenny Longo?
C'est ce que je vous dis quand je réalise tout ce que j'ai fait. Je dis, c'est pas souvent que je réalise ce que j'ai fait, mais quand ça m'arrive, je me dis, c'est comme j'ai fait tout ça. Comment j'ai pu le faire? Voilà, c'est déjà, je me dis comment j'ai fait pour faire tout ça.
La plus belle médaille ou le plus beau t-shirt ou maillot, vous en gardez quelques-uns? Vous êtes une collectionneuse? Vous les remettez pour...
Je garde beaucoup de choses parce que déjà j'aime pas le gaspillage, parce que là aussi on m'a enseigné l'économie et le fait de pas la gabegie consumériste, ça j'ai jamais été éduquée dans ce sens-là, et on s'est toujours contenté de comment dirais-je, justement, un petit cadeau avec énormément d'affection, ça vaut tous les gros cadeaux, quoi.
Une question récurrente dans cette émission, avant de malheureusement devoir vous quitter, Jenny Longo, et de reprendre notre train, c'est la musique qui vous touche.
Oui, la musique a toujours fait partie de mon existence. À la maison, ma mère m'a enseigné la musique classique, le piano, pour commencer. Hein. Après, j'ai pris un professeur. Donc, il y avait beaucoup de musique classique. Dès qu'il y avait un disque qui sortait de musique classique, c'était le cadeau d'anniversaire ou de Noël. Donc, oui, la musique m'a porté. Le piano m'a énormément aidée. Enfin, j'adore le piano. J'aurais voulu être concertiste.
Ah oui.
J'aurais aimé être concertiste. Ça me transporte d'entendre quelqu'un, un pianiste qui joue bien, me transporte. Je me mets à sa place. C'est comme quelqu'un qui veut, par exemple, qui aimerait être cycliste et puis qui regarde un cycliste au Tour de France. Bon, ça, C'est comme une envie, quoi, quand je regarde, quand j'écoute un concertiste.
C'est incroyable, vous avez plein de passions, Jenny Longo.
Oh, pas énormément, mais le sport, la nature et le. Oui, j'aime la musique, oui, le piano. Oui.
De haut niveau, parce que vous me dites que vous auriez pu faire des concerts.
Ah non, je crois que j'aurais pas. Non, j'ai eu un bon niveau, mais je pense que j'ai. Il faut travailler des heures, et moi, je pouvais pas faire du sport. C'est vrai que j'avais participé à un concours international. Mais c'était toujours un peu limite, c'était pas du bachotage, mais pas loin, quoi. J'arrivais, ma prof de piano me disait, t'as travaillé ? Oui, un petit peu, mais j'arrivais du ski, ou de... voilà, donc c'était pas facile.
Donc la musique, là, il y a un morceau que vous aimeriez écouter, qu'on peut d'ailleurs diffuser sur Europe 1 ?
Puisqu'on est dans l'holistique, j'aimerais le Requiem de Mozart. Je crois qu'il est vraiment magnifique. C'est une œuvre prodigieuse qui, je pense, qui transporte tout individu normal qui écoute le Requiem devrait être touché par cette musique. Et sinon, moi, j'ai toujours aimé Bach et j'étais précurseur parce que Bach, personne n'aimait à l'époque. Quand j'étais jeune, je mettais du Bach pour des bras. Et je trouve que c'est ce côté mathématique rigoureux. C'est mesures qui tombent. J'ai toujours aimé Bach.
C'est vrai que c'est particulier, Bach, mais ouais.
C'est
magnifique aussi.
En ce moment, je travaille un concerto pour piano et orchestre de Bach, mais moi, très mollement et très, très, très mal, mais j'aime beaucoup ce concerto, donc voilà.
Donc, vous le travaillez, on va l'écouter. Concerto de Bach.
Oui, on fait comme si c'était moi.
Ah, mais c'est...
Mais j'ai pas le... J'avais acheté même le DVD pour mettre l'orchestre à l'époque.
Allez, on écoute quelques notes. Est-ce qu'il est beau ce concerto?
Oui, il est très joli. Ouais, il est très beau. Il est assez long, mais il est très beau. Et j'ai aussi, on m'a offert les tableaux d'une exposition. Alors ça, c'est super dur. Enfin, là, c'est dur parce que c'est toujours, il y a à une demi-note près, tout. Il y a à chaque fois les dièses qui, enfin, c'est compliqué. Les tableaux d'une exposition.
On reviendra pour vous écouter jouer du piano.
Ouais, dans une autre vie. C'est ça, c'est la résurrection. C'est, faut y croire là, une autre vie. Ça aide beaucoup.
Merci infiniment, Jenny Longo. Dernière question dans cette émission, les athlètes de Dieu. On a passé un moment merveilleux. Hein. Merci beaucoup, Jenny Longo.
Merci
vous
à vous.
Une athlète de Dieu.
Ben, je sais pas. Bénie par les dieux. Oui, j'ai eu de la chance. Il faut avoir de la chance pour être athlète de haut niveau, pour réussir.
À très vite sur Europe 1. Au revoir, Jenny.
Au revoir.
Vous venez d'écouter un épisode d'Athlètes de Dieu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, avec le soutien d'Holy Games.